VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Crise migratoire, l'Espagne est désormais la principale porte d'entrée pour les migrants et demandeurs d'asile dans l'Union européenne, avec un total de 35 615 arrivées depuis le début de l'année. Selon les tout derniers chiffres de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, publiée ce vendredi, ce qui place le Maroc au premier plan du problème de la migration illégale en Europe après la fermeture de la route via la Libye. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi, les autorités marocaines disent avoir fait avorter 54 000 tentatives de passage vers l'Union européenne et démantelé 74 réseaux criminels de traite d'êtres humains depuis le début 2018. Plus de 1900 embarcations ont été saisies sur la même période selon Rabat. La plupart des migrants cherchant à rejoindre l'Europe tentent de gagner les côtes de l'Espagne par la mer. D'autres essaient par voie terrestre en franchissant les clôtures séparant le Maroc des enclaves espagnoles en territoire africain de Ceuta et Melilla. Crise migratoire toujours. En Libye, des milliers de réfugiés et migrants prisonniers dans les centres de détention à Tripoli risquent d'être victimes des combats en cours entre milices dans la région de la capitale et doivent être évacués du pays de toute urgence. C'est ce que déclare ce vendredi l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. Dans un communiqué, l'ONG écrit, je cite, « Au troisième jour de fragile cessez-le-feu à Tripoli, plusieurs milliers de réfugiés et migrants sont toujours pris au piège dans les centres de détention de la capitale. » MSF demande que les mécanismes de relocalisation au point mort depuis plusieurs mois soient activés de toute urgence afin que ces personnes soient évacuées du pays le plus rapidement possible. Fin de citation. Les affrontements entre milices et groupes armés divers qui se partagent le contrôle de la capitale libyenne ont déjà fait au moins 63 morts et 159 blessés, selon le ministère libyen de la Santé. Ebola en RDC maintenant, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le nord-est du pays atteint maintenant 88 morts. Deux décès ont été enregistrés pour la première fois à Boutembo, au nord de Beni, dans la province du Nord Kivu. Le point avec Morgane Guiriec.
Les deux premiers cas de décès confirmés à Boutembo sont une femme et un personnel soignant qui a été en contact avec elle. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère de la Santé. La femme avait fui Beni, une autre zone touchée, où elle avait refusé de coopérer après être tombée malade. Peu avant son départ hier pour cette ville, Oli Ilunga Kalenga, ministre de la Santé, a donné un dernier bilan de 129 cas, 88 décès, dont 31 sont des cas probables et 57 des cas confirmés. À Beni, les autorités ont de nouveau rencontré des habitants d'un quartier qui manifestaient des résistances aux mesures de prévention. À Boutembo, grand carrefour de près d'un million d'habitants, l'inquiétude grandit. Pendant la précédente épidémie dans la province de l'Équateur, un seul cas a été enregistré à Mbandaka, autre grand carrefour d'environ un million d'habitants. La fin de l'épidémie a été décrétée le 24 juillet avec un bilan total de 33 morts.
En Angola, l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos prend samedi sa retraite politique définitive en cédant la direction du parti au pouvoir à son successeur à la tête de l'État, João Lourenço, épilogue d'une transition crispée entre les deux leaders. À la fin de règne absolu, entamé en 1979, M. dos Santos, malade, avait exprimé le souhait de quitter le pouvoir en douceur, à contre-pied de nombre de ses collègues africains. Il n'a donc pas sollicité, il y a un an, le renouvellement de son mandat de chef de l'État et transmis le témoin à son ex-ministre de la Défense, João Lourenço. Mais prudent, l'ancien président avait toutefois gardé la direction du tout-puissant Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, le véritable siège du pouvoir. Finalement, demain samedi, le camarade numéro 1, âgé de 76 ans, va aussi remettre au président Lourenço les clés du parti au pouvoir, réunis en congrès extraordinaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Burundi, des enquêteurs de l'ONU sur le Burundi ont prévenu mercredi que de graves violations des droits humains, y compris des crimes contre l'humanité, continuent dans le pays. Les intéressés dénoncent également les appels à la haine du président burundais Pierre Nkurunziza. Pour une réaction, Yakuba Ouédraogo a joint Martin Nyabandi, le ministre burundais des droits de l'homme.
C'est un rapport qui, dès le continue à faire des allégations mensongères, des allégations inacceptables. Quand vous dites que le chef de l'État fait toujours appel à la haine, c'est toujours très étonnant. Et quand vous suivez les cercles de moralisation sur l'unité de la réconciliation nationale, il s'avère important de connaître, de savoir que c'est une commission qui a été guidée par un esprit malveillant. Nous avons rejeté les conclusions et les recommandations de ce rapport. Mais nous n'avons pas été très étonnés puisque quand il a fallu mettre en place cette commission, ça a été fait par le fort. Au niveau du gouvernement, on avait découvert très tôt que l'objectif était de perdre l'image de notre pays.
Est-ce que le gouvernement burundais a autorisé une commission de l'ONU à s'installer au Burundi pour enquêter sur des violations des droits de l'homme?
C'est ce que nous avons découvert. La première commission qui était venue, c'était ce que nous avons appelé l'ONU. Enquête des Nations Unies au Burundi, ils ont produit un rapport, nous avons fait notre réaction. Et après, ils ont voulu mettre en place notre commission sur la pression de l'Union européenne. Nous avons rejeté cela, nous avons créé. D'abord, le rapport contenait des mensonges, qu'il fallait nous asseoir ensemble et trouver des solutions adéquates dans le cadre de promouvoir la paix, la réconciliation et la promotion de la défense des droits de l'homme. Et cela n'a pas été accepté.
Est-ce que des enquêteurs vous ont approché après la publication du rapport ou avant?
Quand l'ONU a produit son rapport, nous avons fait notre réaction. Les réactions du gouvernement sont disponibles. Même s'ils veulent, ils vont prendre. S'ils ne veulent pas, nous n'allons pas les forcer. Dès que nous disons, nous ne reconnaissons pas la légitimité de cette commission.
Les enquêteurs disent avoir une liste confidentielle de personnalités impliquées dans ces exactions-là. Ne craignez-vous pas des poursuites?
Comment est-ce qu'on peut avoir peur des poursuites alors qu'on ne s'accuse de rien? Ça fait 3 ans qu'on parle de la fameuse liste. Et pourquoi on ne dévoile pas cette liste? C'est une façon de faire la pression sur le gouvernement, c'est une façon de faire peur. Mais au moment où nous vous parlons, le peuple burundais est résolu à défendre sa souveraineté, à défendre et protéger les droits de l'homme. Nous disons, nous restons très sereins, nous continuons nos activités quotidiennes. Depuis 2013, nous sommes habitués à cela. Nous devons nous occuper des autres affaires du développement et ne pas continuer à perdre notre temps dans des histoires de commissions, d'investigations qui ne se terminent jamais.
Martin Nyabandi, ministre burundais des droits de l'homme, joue à Bujumbura au Burundi. Relations États-Unis-Ouganda, le chanteur et opposant ougandais Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobby Wine, a affirmé jeudi être déterminé à rentrer de son pays après un traitement médical ici aux États-Unis, et ce malgré une inculpation pour trahison par la justice ougandaise. Plus de détails avec Irénée Armand-Numbo.
Je veux rentrer chez moi, je veux continuer à appeler tous les Ougandais à se battre pour ce en quoi ils croient, a déclaré Bobby Wine lors d'une conférence de presse à Washington. Il est venu soigner des blessures provoquées selon lui par des violences et des tortures subies en détention provisoire. Les autorités ougandaises ont rejeté ces accusations. Son avocat Robert Amsterdam a saisi l'occasion pour appeler les États-Unis à dénoncer les violations des droits de l'homme en Ouganda. Bobby Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, 36 ans, s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse et un critique du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Il a été inculpé avec 32 co-accusés après un incident à Arua le 14 août où des pierres ont été jetées sur le convoi de M. Museveni. Le chauffeur du chanteur et député a été tué par les forces de l'ordre et lui-même jeté en prison.
États-Unis toujours dans un climat de suspicion à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump a encore appelé jeudi soir le New York Times à révéler, je cite, le nom du lâche qui a rédigé une tribune anonyme dénonçant le comportement erratique du chef de l'État. Le président Trump a également encouragé les journalistes à enquêter sur l'identité de l'auteur, Jean-Roger Bion.
La publication très controversée de ce témoignage anonyme intervenu au lendemain de la diffusion d'extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward suscitait une myriade de questions à Washington et au-delà. Personne ne sait qui c'est, a lancé Donald Trump lors d'un meeting de campagne à Billings, dans le Montana, dénonçant ces anonymes qui défient les électeurs pour promouvoir leur programme secret et sont une menace pour la démocratie elle-même. Dans un étonnant ballet révélant le degré de tension régnant dans les hautes sphères du pouvoir américain, nombre de responsables de premier plan se sont fendus d'un communiqué, assurant la main sur le cœur n'être en rien lié à cette affaire. Fait rare, la première dame Melania a donné de la voix, dénonçant avec force, dans une réponse écrite, l'anonymat derrière lequel l'auteur de ce témoignage s'est réfugié. Le bureau du vice-président s'est senti tenu de publier un communiqué à Sénat que Mike Pence était blanc comme neige dans cette affaire.
Merci de votre attention.